le 1er juillet dernier, avec une conférence intitulée « La paix ne s'impose pas », le général Jacques Aragonès ouvrait la 18e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet, qui avait pour thème cette année « La paix aura ton visage ».
Je suis général en deuxième section, c'est-à-dire que j'ai arrêté l'activité et je suis aujourd'hui en ce qu'on appelle en réserve jusqu'à mes 68 ans. Je suis rentré pour la première fois sous l'uniforme au collège militaire d'Aix. J'avais pas encore 18 ans et j'ai donc quitté le service actif en 2018 de façon un peu prématurée et sur décision personnelle. J'ai donc servi mon pays pendant 38 ans sous l'uniforme. Alors bien sûr, je ne suis pas de la génération qui a libéré la France au lendemain des débarquements de Normandie ou de Provence. Je ne suis pas non plus de celle qui a participé à leur corps défendant au combat en Indochine ou en Algérie pendant près de deux décennies. Je ne suis pas de la génération qui a attendu l'arme au pied pour la grande majorité d'entre eux entre 1960 et 1990 pendant presque 30 ans, sans quitter le territoire national ou presque, avec pour horizon les camps d'entraînement en Champagne et dans l'Est de la France. Je suis de ceux qu'on appelle la quatrième génération du feu, donc j'ai connu une bonne douzaine de déploiements, et parmi eux des actions de combat en Afrique, dans les Balkans, à Sarajevo en particulier, et puis surtout en Afghanistan, il y a une quinzaine d'années, lorsque je commandais mon régiment. Alors est-ce qu'il est surprenant de demander à un soldat de venir parler de la paix ? Eh bien pas vraiment, puisqu'en fait notre domaine d'action, le nôtre en fait, c'est la guerre, et que si on connaît la guerre, on connaît très bien le prix qu'il faut payer pour avoir la paix. Alors dans ma carrière, dans les différentes opérations auxquelles j'ai participé, on m'a demandé d'instaurer la paix, de la restaurer, de la rétablir, de la maintenir, etc., avec tout le vocabulaire qui va avec. En résumé, la paix nous a coûté cher, en tant que Français, et spécialement en tant que militaire, puisque envoyé par notre pays, loin de chez nous, loin de nos familles, loin de nos amis. La paix se gagne, dit-on. Moi, je pense qu'elle se mérite, surtout. Elle se mérite parce qu'elle n'est pas gratuite, et on a laissé pas mal des nôtres sur les pistes africaines, dans la boue des Balkans ou dans la poussière d'Asie centrale. D'autres sont revenus, atteints dans leur chair ou même dans leur tête. La paix se mérite parce que la guerre est là, elle est tapie, elle attend simplement de se révéler par les pires travers des hommes. Et c'est un peu l'objet de mon propos de cet après-midi et donc de votre début d'après-midi. Alors, pour commencer, un petit moment de poésie. Je vous invite à lire cette citation de Charles Baudelaire qui dit « Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat, l'homme qui chante, l'homme qui bénit, l'homme qui se sacrifie, qui sacrifie et se sacrifie. Le reste est fait pour le fouet. » Je ne doute pas que la grande majorité d'entre vous soient donc des poètes. Et promis, je ne sortirai pas mon fouet cet après-midi. Alors, donc, je vais vous partager mon expérience de soldat au travers de trois aspects différents de la guerre. Le premier sera une approche plutôt historique et polémologique. Et puis ensuite, une dimension beaucoup plus humaine pour la deuxième partie. Et puis je terminerai par quelques remarques sur la victoire et sa finalité, qui est le retour à la paix. Alors pour commencer, je dirais qu'au travers du temps, les hommes ne se sont pas toujours battus comme aujourd'hui, c'est-à-dire dans une guerre totale d'annihilation, mais j'y reviendrai par la suite. Les formes de l'affrontement armé ont évolué avec l'émergence des communautés humaines. Avant de parler de la guerre, deux petits mots sur la violence. La violence, elle est inhérente à l'état de nature. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est intimement lié à notre nature humaine, et elle remonte certainement aussi loin que nos propres origines. Dans les temps reculés, la loi du plus fort a toujours prévalu au sein des sociétés humaines. La violence organisée, c'est-à-dire la guerre, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup plus tardivement, puisqu'on l'a fait remonter à environ 3000 avant Jésus-Christ, chez les Sumériens, donc en Mésopotamie, la région équivalente à l'Irak d'aujourd'hui. En effet, la sédentarisation a impliqué le développement beaucoup plus rapide de la démographie, et de ce fait sont apparues des confrontations entre des populations sédentaires et des populations de pasteurs, et puis aussi avec, bien sûr, le poids des risques de famine qui pesaient sur les différentes régions. D'ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait que dans la Bible, Adam a deux fils, Caïn est cultivateur et Abel est berger. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, Caïn tue Abel. De ces confrontations entre sédentaires et nomades, Trois personnages apparaissent alors, le prêtre, le guerrier et le paysan, avec un équilibre à trouver en fait entre les deux derniers, puisque il s'agit de garantir un niveau de sécurité et puis en même temps de garantir un niveau de production pour assurer la survie ou la vie des communautés humaines. Avec l'apparition de la citoyenneté grecque, cette équation se résout partiellement, puisqu'en fait le citoyen vote la guerre et par la suite, pardon, il y participe. Chaque citoyen détient d'ailleurs chez lui son propre armement et c'est lui-même qui va au combat. En termes de technique de combat, l'évolution se fait alors vers une forme de combat à mort, face à face, dans des formations compactes, au coude à coude. Et c'est ce qu'on appelle la phalange grecque, qui s'affronte au cours d'une bataille rangée pour régler leurs différends entre cités. Alors il y a quelques invariants, hein, c'est un affrontement d'hoplites, c'est-à-dire de fantassins, de gens à pied. L'effectif est fixe, on se bat au coude à coude, sur un endroit qui a été choisi, c'est un lieu précis, on n'a pas le droit d'en sortir, de façon à pas endommager les cultures. C'est un temps limité, parce qu'après il faut aller cultiver, et puis tout particulièrement il faut peut-être aller moissonner. Le soldat est avant tout un paysan. Et chaque cité se range derrière le résultat du combat, donc on a d'emblée une idée de victoire décisive. C'est un combat à mort. Et c'est une forme de combat dans lequel l'occidental veut souvent en finir, si j'ose dire. Parce qu'en fait, ça n'est pas un homme de guerre, il est plutôt tourné vers l'économie, il veut la paix pour faire prospérer son commerce, son élevage, ses cultures. Donc tout ceci suppose la négation et le refus de la dérobade, la fuite, de la mort dans le dos. On se bat et on meurt debout, face à face, les yeux dans les yeux. Et ça va durablement marquer notre façon de combattre tout au long des siècles qui suivent. Dans ce monde, la cavalerie n'a pas du tout de rôle principal. Les armes de jet non plus, la lance, la sagaie, la massue. Donc seule l'infanterie compte et tous les autres procédés sont bannis. Ce modèle est analysé et décrit par un gars qui s'appelle Victor Davis Hanson dans un livre, Le modèle occidental de la guerre. Et ce modèle restera pendant des siècles la référence pour notre lecture des affrontements. La bataille rangée est donc la fille de la démocratie, où chacun joue de la même façon, avec la même règle, le même objectif. Ce modèle occidental recherche une bataille, c'est une stratégie de destruction. Et donc on peut résumer les deux apports majeurs du monde grec, qui sont la démocratie, celle où on donne le pouvoir au peuple, qui est quand même l'idée centrale de notre politique occidentale, et puis la bataille rangée d'infanterie comme solution aux différends entre cités. Le but est identique, obtenir un résultat définitif, incontestable, de la façon la plus directe et la plus efficace possible. Le vote majoritaire pour la démocratie, le combat corps à corps, face à face, des hoplites pour la guerre. Dans son livre Histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide analyse le conflit qui a opposé Sparte et Athènes avec les coalitions qui étaient liées à chacune des cités. Ça se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ, entre 431 et 404. Et cet Athénien est souvent cité parce qu'il nous offre une des premières analyses rationnelles des conflits, des relations de puissance entre entités politiques, indépendantes ou rivales, ainsi que les bases de la géopolitique, en l'occurrence l'opposition et le duel entre une puissance continentale, Sparte, et une puissance maritime, Athènes. Aujourd'hui, Thucydide fascine toujours par sa modernité et la permanence des enseignements que l'on peut en tirer. Ainsi, dans son discours des Athéniens aux Lacédémoniens, il décrit les trois raisons pour lesquelles les hommes se font la guerre. Selon Thucydide, on se fait la guerre pour l'honneur, par peur ou par intérêt. Ce sont les trois motivations de se battre. On peut dire que ça n'a pas changé. Thucydide a une vision de la guerre qui est quand même assez originale parce qu'on peut la qualifier d'aventure accidentelle. C'est irrationnel, c'est une parenthèse, c'est non souhaitable et ça s'inscrit évidemment dans les rapports de force entre cités. Pour lui, la guerre, c'est l'opposé de la politique. Alors, Thucydide écrit dans son discours « Avant de vous engager, songez à tout l'imprévu que comporte une guerre. Quand elle se prolonge, c'est d'ordinaire le hasard qui finit par jouer le premier rôle. À ce point de vue, nous nous trouvons placés à égalité, et c'est une aventure dont on ne sait à l'avantage de qui elle se terminera. Quand les hommes s'engagent dans les guerres, ils commencent parce qu'ils n'auraient dû faire que plus tard, ils passent à l'action, et c'est seulement lorsqu'ils ont souffert qu'ils en viennent aux négociations. C'est seulement lorsqu'ils ont souffert qu'ils en viennent aux négociations. Je pense que c'est d'une actualité criante. On sait toujours commencer une guerre, on sait rarement la terminer, ou bien quand elle se terminera, parce que la guerre a une dynamique propre. C'est la dynamique de la guerre. Elle a une existence à part et elle génère des mouvements et des changements qui sont profonds et qui sont incontrôlés. Donc en fait, le piège de la guerre réside aussi dans un état permanent d'affrontement, dans une espèce de guerre sans fin. Alors toujours dans mon petit parcours historique, depuis Athènes, je fais un raccourci, je ne passe pas par toutes les étapes, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce modèle occidental et donc la façon de s'affronter a évolué progressivement. La Première Guerre mondiale a représenté la disparition de la majorité de ses principes parce que l'affrontement a été total, parce qu'il a été continu, parce qu'avec l'apparition des armes chimiques, les toxiques de guerre, ça a marqué évidemment une évolution particulière. L'anéantissement de l'adversaire a été recherché et seule l'usure des 4 années de guerre totale et de millions de morts en a été le résultat. Alors au fil du temps, les principes que j'ai évoqués précédemment se sont affadis, ils ont disparu, même s'il en reste quelques traces. Aujourd'hui encore, l'occidental recherche une bataille décisive, un affrontement qui ôtera à l'adversaire toute envie de poursuivre. Cette quête permanente et quasi obsessionnelle est visible, par exemple, lorsque le président Trump est persuadé que l'Iran va baisser les bras après quelques jours de bombardement. Par la suite, l'avènement de l'arme atomique, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, a marqué une nouvelle étape dans les affrontements. La Première Guerre mondiale a été la dernière guerre où le nombre de morts militaires a été plus élevé que le nombre de civils tués. La Deuxième Guerre mondiale a accéléré ce nouveau paradigme avec des millions de civils tués. Les populations sont devenues un enjeu et surtout une cible. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais qu'est-ce qui a tué le plus de civils français pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Ah oui, les Alliés. Parce qu'en fait, quand on fait l'analyse, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un gars qui s'appelle Eddy Florentin, quand les Alliés bombardaient la France, il a compté, en dehors des déportations, les Allemands et leurs Alliés ont tué 6 000 civils français, ils en ont fusillé 25 000, ça fait 31 000. Les Alliés en ont tué 69 000. Il y a eu 69 000 morts lors des bombardements alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et forcément une majorité, une très grande majorité de civils. 75 000 de plus ont été blessés ou mutilés. 300 000 habitations ont été détruites. Les villes totalement détruites ou gravement endommagées se comptent par dizaines. Caen, Le Havre, Saint-Lô, Lorient, Saint-Nazaire, Avignon, Bordeaux, Le Creusot, Gennevilliers, Trappes, etc. Toutes les régions ont été concernées. Les horreurs de la guerre sont multiples. Les bombardements aériens sur Londres, sur Hambourg, sur Dresde ont fait des dizaines de milliers de morts. Mais en fait, toutes ces horreurs atteignent leur paroxysme le 6 août 1945 à Hiroshima, où 75 000 personnes sont tuées instantanément par une seule bombe atomique. Dans les semaines qui suivent, 50 000 personnes de plus meurent. Ça fait environ 125 000 victimes en 3 mois. Et le décompte du nombre total de morts reste imprécis, mais on atteint à peu près le chiffre de 250 000 personnes. À Nagasaki, 3 jours plus tard, mais il en est sensiblement de même. Toutefois, la dissuasion nucléaire a le grand mérite, depuis 1945 et le développement du nombre de pays dotés, d'avoir établi une sorte de statu quo. On parle volontiers d'équilibre de la terreur. Le vocabulaire employé fait quand même froid dans le dos, parce que quand on y pense, l'équilibre de la terreur, des stratégies anticipées, des frappes de représailles, où dans tous les cas, les villes sont ciblées, les populations sont menacées. Pourtant, ces armes nous ont aussi apporté la plus longue période en Europe sans guerre que nous ayons connue. Plus de 80 ans déjà, si l'on écarte les conflits des Balkans, qui étaient quand même une guerre civile, et l'Ukraine aujourd'hui, qui est un conflit qui reste assez limité. Les Occidentaux, globalement, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur YouTube des frontières de l'Europe, qu'on voit évoluer au fil du temps, on est quand même les champions de la guerre, les champions des affrontements armés. Alors aujourd'hui, les observateurs conviennent que la guerre, que l'on pensait définitivement hors la loi grâce aux Nations Unies, grâce aux différents dispositifs de règlement pacifique des différends, ne fonctionne plus correctement. Ils ont vécu, et la paralysie de ces systèmes est autant imputable à la montée d'un Sud global qui lie toutes les actions et les résolutions de l'ONU comme un ordre mondial des puissants que du fait de sa propre impuissance. Ceux qui pensaient rendre la guerre hors la loi voient désormais revenir les États-puissances qui font fi de la loi internationale et qui marquent le retour de la loi du plus fort. Le droit international est incapable de résoudre la situation en Ukraine. Son inutilité est patente. La Russie est l'État qui connaît les pires sanctions depuis des années et qui en contourne les effets avec succès. La démonstration est donc faite. Le droit sans la force ne triomphe jamais de la violence. Alors donc, de cette première partie, il faut retenir qu'en Europe, la mémoire de la Première Guerre mondiale, et puis très rapidement celle de la Deuxième Guerre mondiale, qui se termine par le spectre atomique que j'ai évoqué tout à l'heure, ont profondément marqué les esprits. Par la suite, pour nous, Français, l'Indochine, l'Algérie, la France a connu des expériences sans vraie victoire. Et tout ça a provoqué en France une sorte de tentative de sortir la guerre et tout ce qui était violence du champ politique. Bon, aujourd'hui, force est de constater que tout ça n'était qu'illusion. La guerre est bien de retour en Europe. Et si l'on en croit les déclarations martiales des uns ou des autres, elle pourrait rapidement s'étendre sur le continent. Alors maintenant, après avoir vu ce premier point, je vais vous parler du niveau plus individuel du combattant, du soldat, de celui qui est impliqué dans les différents affrontements. Ce sera ma deuxième partie. Alors l'histoire du soldat français, si on parle de conscrit, ça remonte à la Révolution française. Auparavant, rappelons que les rois de France avaient des armées très réduites, souvent levées uniquement pour la durée de la campagne, initialement avec les chevaliers, accompagnés de leurs vassaux et de leurs gens. Par la suite, la guerre de Cent Ans a vu émerger des compagnies de professionnels de la guerre que l'on payait pour une campagne. Bon, on peut imaginer aisément la motivation de gens qu'on paye juste pour aller au combat. Pour le sacrifice de ce genre d'unité, j'émets des doutes. De plus, à la démobilisation, ces grandes compagnies n'hésitaient pas à piller la population, à mettre à sac les différentes provinces dans lesquelles ils avaient été déployés. Au XVIIe siècle, l'armée est réformée en profondeur. La hiérarchie militaire est réorganisée pour favoriser l'avancement au mérite de la petite noblesse et de la bourgeoisie. Une administration civile est développée pour gérer l'armée et une ébauche de conscription est mise en place avec une milice provinciale, une armée de réserve composée d'hommes tirés au sort. L'armée moderne, celle des conscrits, c'est vraiment la création de la Révolution française, puisque le texte fondateur de la conscription en France est la loi Jourdan d'Elbrel, que vous voyez à gauche sur la diapositive, qui a été adoptée le 5 septembre 1798 et qui instituait la conscription universelle et obligatoire pour tous les hommes français âgés de 20 à 25 ans. Leur présence sous les drapeaux est imposée par la loi. Il y a donc une notion forte de contrainte. Et il s'agit donc de faire venir tous les jeunes Français pour un temps sous les drapeaux. Les conscrits fournissent alors toutes les armées de Napoléon, du Second Empire, des rois entre-temps. Et plus tard, c'est bien une armée de conscrits qui défend en masse la terre de nos pères en 14-18 dans la boue des tranchées et qui contribue grandement par la suite à la libération de la France en 1944 après le débarquement de Provence. Donc, de Valmy en septembre 1792 à la libération de Colmar en février 1945, en passant par Douaumont en octobre 1916, les armées d'Appelée ont écrit les plus belles pages de gloire de nos armées françaises. Leurs titres de gloire sont brodés en lettres d'or sur l'avers de tous nos drapeaux, de tous nos régiments. En 1996, le président Chirac rompt avec le passé et annonce la fin du service national obligatoire, la création d'une armée de métier. Cette décision est ensuite entérinée par une loi en octobre 1997 qui suspend la conscription. Tout le monde le sait, aujourd'hui, nos soldats, nos officiers, nos sous-officiers sont tous des volontaires qui ont choisi de rejoindre les armées, qui ont délibérément accepté de porter les armes au nom du peuple français et d'obéir aux décisions politiques d'engagement des forces armées, ce qui suppose qu'ils acceptent de se sacrifier pour leur pays. Mais un soldat français n'est pas un condottiere du XVe siècle qui se vend au plus offrant. Il n'est pas un mercenaire dans son propre pays. Parce que le soldat français accepte de porter les armes, mais au nom du peuple de France. Et lorsqu'il donne la mort, il le fait en notre nom à tous. Il ne combat pas pour un idéal politique ou idéologique. Il est le bras armé d'une démocratie, la nôtre. Et on dit qu'il détient le monopole de la violence légitime. La violence légitime décrite par Max Weber au début du siècle, du XXe siècle. C'est légitime parce que sa mission lui est confiée par les représentants du peuple français, en tout premier lieu par le président de la République, qui est aussi constitutionnellement le chef des armées, et par le Parlement lorsqu'il est consulté, au-delà d'une durée de mission initiale de 4 mois. La cohérence de notre système est assurée par le président qui dispose de la réactivité et par le Parlement qui, lui, dispose de la légitimité par un vote de confiance. Dans l'armée française, au combat et dans tous nos déploiements, le soldat ne tue que par absolue nécessité et en préservant impérativement les vies civiles et les innocents dans toute la mesure où sa mission le permet. Selon le territoire concerné, cela peut être plus ou moins facile ou plus ou moins efficace, en particulier lorsque la population prend fait et cause pour un camp et contribue aux attaques contre nos propres forces. Alors, je vous donne un petit exemple. Le 4 janvier 1997, deux militaires français sont appelés, ça se passe en Centrafrique, il y a un capitaine et un adjudant, ça se passe à Bangui, et les deux militaires, le capitaine Patrick Devos et l'adjudant Gérard Giraldo, sont tués à bout portant par des hommes en uniforme, qui tombent dans un vrai guet-apens. Ils n'étaient pas spécialement armés, ils avaient juste des armes d'autodéfense, des pistolets. Et ils étaient venus parce que les mutins centrafricains leur avaient dit qu'un civil avait été tué par des balles françaises. Et donc ils étaient venus constater les choses sur une des plus grandes avenues de Bangui, l'avenue Boganda, sur laquelle se déroulaient des manifestations. Quelques mois plus tard, une foule hostile de civils, avec des femmes au premier rang, qui lèvent leur t-shirt pour montrer leur poitrine, et derrière des soldats qui jettent des grenades sur les positions des Français. Bon, eh bien, on s'est retrouvés dans la plus grande des difficultés, parce que tirer sur des civils, ça ne rentre pas dans le logiciel de soldats français. Donc en fait, la force d'intervention, c'était des Tchadiens, et on a fait appel aux Tchadiens, et ils sont arrivés, et ils ont réglé le problème en 2 minutes, parce que ça ne leur pose aucun problème. Alors, aujourd'hui, un soldat français, à partir du moment où il est militaire dans l'armée de la République, il ne choisit pas sa mission. Il ne se porte pas volontaire pour partir quelque part. On ne choisit pas sa mission. On va là où on nous dit d'aller. Et en fait, il n'a pas le loisir du droit de retrait, de choisir celle qui lui plaît ou qui le paye le plus. Il va là où on lui dit. Il s'est engagé à servir son pays par les armes. Et donc, là où la mission l'appelle, il se rend. Nos soldats, nos hommes et nos femmes servent avec courage et détermination partout où ils sont envoyés, avec toute la fougue et l'allant de leur jeunesse, exactement comme leurs anciens auparavant. Le soldat donne la mort, mais il est aussi prêt à la recevoir, et la notion de sacrifice et de volontariat s'est substituée à celle de contrainte par la loi que j'évoquais tout à l'heure avec les armées de conscrits. Donc aujourd'hui, on est dans du volontariat, et c'est assez différent. Vous avez ici le monument qui honore la mémoire de tous les morts du régiment à Castres, 8e RPMA, depuis la création du régiment en 1951. Alors bien sûr, il y a une très grande majorité de noms pour l'Indochine, comme vous pouvez le voir dans la partie gauche. Ensuite, il y a l'Algérie. Et puis à droite, il y a les opérations modernes, celles qu'on appelle les opérations extérieures. Et puis dans la droite de la diapositive, vous voyez 8 de nos morts en Afghanistan lors de l'embuscade d'Ouzbine. Alors, il ne faut quand même pas se tromper, une armée de professionnels ne permettra jamais de fournir les effectifs suffisants pour un conflit majeur. Pour faire un parallèle avec l'Ukraine, aujourd'hui en Ukraine, il ne reste quasiment aucun de ceux qui se sont battus dans les premiers jours. Ramener à notre niveau une armée professionnelle de terre de 100 000 hommes, mais en fait, c'est consommé en quelques jours, quelques semaines de combat. Donc derrière, il faut avoir quelque chose. Il faut une réserve et puis il faut réimaginer un dispositif de mobilisation, performant, rapide, cohérent. Pour reprendre une image chère au général Iras Torza, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, en 1914, nos effectifs permettaient d'aligner un fantassin tous les 50 cm en partant de Nice et en montant jusqu'à Dunkerque. Un fantassin tous les 50 cm. Aujourd'hui, on a 20 régiments. Si on les aligne tous de la même façon, tous les 50 cm, on peut faire 15 km. Donc on ne va même pas faire le tour du périphérique de Toulouse. Donc c'est une image, mais c'est pour vous donner un peu quelles sont nos capacités aujourd'hui. Voilà. Il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'on savait faire il y a quelques années. Je voulais vous dire quelques mots sur la difficulté pour moi de la théorie de la guerre juste de Saint-Augustin, mais comme j'ai vu qu'il y avait une conférence complète tout à l'heure, donc j'y sursois, et je ne déflorerai pas ce sujet puisqu'il est porté par l'intervenant suivant. En revanche, je vous dirai quelques mots sur la différence entre sécurité et défense. Les forces armées ne sont pas chargées de contribuer à la sécurité. Ce n'est pas notre métier. On n'est pas là pour aller rétablir l'ordre dans des banlieues. Nous sommes organisés, équipés, entraînés, commandés pour nous opposer par la force à un ennemi qui nous veut du mal. Et pour ça, nous utilisons, avec tout le discernement nécessaire, la force des armes et des armements divers. Contrairement à beaucoup d'affirmations, en particulier de journalistes, quand on a parlé au début de la guerre en Ukraine, il n'existe pas d'armes défensives. Toutes les armes sont destinées à tuer, et tous les calibres le permettent. Donc il n'y a pas des petits calibres qui tuent mollement et des gros calibres qui tuent sévèrement. La sécurité, quant à elle, elle vise à ramener dans la loi un citoyen déviant. La sécurité, c'est la mission de la gendarmerie, de la police nationale, de la police municipale, dont les consignes d'ouverture du feu et les équipements sont adaptés à leur mission. Si on additionne la police nationale et la gendarmerie, on a 240 000 hommes. 240 000 hommes, il faudra m'expliquer pourquoi ils ont besoin de 10 000 militaires de plus. Alors, nos soldats déployés à Sentinelle, les fameux 10 000 que vous voyez en bas à droite, agissent uniquement dans le cadre de la légitime défense. Donc quiconque essaye de prendre une de leurs armes, capturer un des membres d'une équipe ou sortir une arme ou un couteau, tous ces exemples sont réels, eh bien, il va mourir ou être grièvement blessé. Parce qu'en fait, tous les soldats ne sont entraînés que pour ça. De façon un peu triviale, les forces de sécurité du ministère de l'Intérieur, avec les écureuils de l'autoroute, vous voyez ce que je veux dire là, de l'autoroute Toulouse-Castres, ben, ils attendent que les écureuils descendent des arbres pour les arrêter. Mais nous, on ne sait rien faire de tout ça, ni attendre, ni arrêter. Nous, on peut couper l'arbre, faire exploser l'arbre ou tirer sur l'écureuil. On n'a pas d'autre solution. Donc, nous ne sommes pas interchangeables avec les forces de sécurité. La défense n'est pas la sécurité et la sécurité n'est pas la défense, vice-versa, et on ne fait pas le même métier. Le point suivant, mon deuxième point, est-ce qu'il est plus facile de défendre son pays ou de résoudre des crises ? Alors, je pense, au fond de moi-même, qu'il est plus facile de défendre son pays contre un agresseur clairement identifié qui essaye de nous envahir, de nous faire du mal. On a quelques exemples dans l'histoire. Hein, c'est des voisins. Ils sont pas loin. D'ailleurs, ils sont de plus en plus agressifs, au moins économiquement. Résoudre des crises, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'on va dans des zones où la violence peut surgir à tout moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec Bangui. Hein, on a un niveau de violence qui peut être nul et qui peut être maximal 5 minutes après. Alors en tant que soldat, nous, on va là où le président de la République française nous envoie. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais il faut bien comprendre que la justification du bien fondé de la mission, elle appartient au pouvoir politique. Pourquoi sommes-nous allés en Afghanistan ? Pourquoi sommes-nous restés au Mali, au Burkina Faso ou au Niger pour ensuite en être chassés ? Ben, toutes ces questions, elles se posent devant le pays, devant la représentation nationale, et puis devant les familles éplorées par la perte d'un fils ou d'un mari, parce qu'à chaque fois, nos opérations, ça se concrétise par nos morts et nos blessés. Je vous ai parlé de la Bosnie. La Bosnie, c'est une centaine de morts. L'Afghanistan, c'est une centaine de morts. Les opérations au Mali, c'est une centaine de morts français. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé, petite expérience, de séparer deux boxeurs bien motivés. Mais s'interposer entre deux belligérants, ça ressemble un petit peu à la même chose, sauf qu'au lieu de prendre un coup de poing, on reçoit une volée de balles ou des tirs d'obus explosifs. Alors une autre petite anecdote, hein, en 94-95, à Sarajevo, comme casque bleu, c'était s'exposer aux tirs de deux factions qui s'affrontaient, les musulmans bosniaques d'un côté contre les serbes bosniaques de l'autre, dans une guerre civile. Or, dans une guerre civile, il n'y a pas de gentils. Même si la presse avait choisi son camp, il n'y a pas de gentils. Il n'y a pas des gentils musulmans et des méchants serbes, ou des gentils serbes et des méchants musulmans. Il n'y a que des méchants, en fait. Donc, c'est des voisins, c'est des amis, c'est des parents qui se battent les uns contre les autres avec toute la férocité dont est capable le genre humain. Alors, je vous relivre une petite anecdote. Hein. En juillet 1995, l'infirmerie d'un des bataillons français a été visée par un tir de mortier. L'infirmerie, c'est un bâtiment avec une grosse croix rouge dessus. Hein. Donc bon, on ne peut pas le rater. Et donc ils reçoivent un premier obus à proximité de l'infirmerie. Le médecin qui est là, qui s'appelle Éric d'Orléans, il donne quelques ordres, des consignes, parce qu'un obus vient d'éclater et il est grièvement blessé. Il donne des consignes à son infirmier, il lui explique qu'il est allergique à un certain produit, et puis il tombe dans le coma. Et malgré la mobilisation de toute l'équipe chirurgicale, malgré tous les donneurs de sang bénévoles qui se portent volontaires pour donner du sang, le capitaine décède sur la table d'opération. Donc on peut être médecin, on peut ne porter comme toute arme qu'un brassard à croix rouge et mourir pour la France, alors qu'au départ, on est simplement venu rétablir la plaie. Alors de l'avis de beaucoup d'anciens combattants de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'à cette époque-là, il y en avait encore, Sarajevo leur semblait une mission impossible. Mission impossible du fait de l'absence de front, de la difficulté d'identifier nos adversaires, et puis de se retrouver entre le marteau et l'enclume en permanence, et le marteau changeant de côté et l'enclume changeant de côté. Alors pour terminer sur cette partie, la mort d'un soldat, elle n'est jamais anodine. Hein. Elle n'est ni un accident du travail, ni une mort ordinaire. Et reprenant à nouveau ce que disait le général Irastorza, je le cite, « La mort du soldat au combat n'est pas une mort ordinaire et on répugne à la comparer aux autres causes de mortalité dans notre pays. Mais dès lors qu'il y va de la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, il faut bien se souvenir collectivement de ce que nous dit la loi de la République. L'État militaire exige en toutes circonstances esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême. Le soldat connaît cette exigence puisqu'il l'a acceptée. » On parle chez nous d'engagement. Donc ce n'est pas simplement un engagement à toucher de l'argent tous les mois, c'est un engagement à faire ça, à aller jusqu'au sacrifice suprême si c'est nécessaire. Alors j'aborde maintenant ma troisième partie. Devant les grands malheurs de la guerre, les Nations Unies ont imaginé, avec les nations qui en font partie, des actions militaires pour contribuer à la paix. Alors tout un vocabulaire a été créé autour de ces missions, selon la gravité initiale de la situation, selon le degré de retour à la normale, etc. Donc c'est tout le vocabulaire que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, rétablir, instaurer, restaurer, maintenir, consolider la paix. Et en fait, depuis la première mission de maintien de la paix en 1948, plus de 1 million de casques bleus issus de 125 pays ont servi sous le drapeau des Nations Unies. Créées et mandatées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ces missions ont œuvré pour protéger les populations, promouvoir des solutions non violentes aux conflits et jeter les bases de sociétés sûres et stables. J'ai copié ce paragraphe sur le site des Nations Unies. Ça m'a laissé rêveur. Alors c'est un concept qui est séduisant. Quand on est à New York, dans un building de verre et d'acier, climatisé, chauffé en hiver, c'est bien. Quand on est dans les Balkans, à Sarajevo, ben je crois que ces missions ont révélé pleinement leur inefficacité, en Bosnie, au Kosovo. Et en fait, il n'y a que quand l'OTAN, qui se cherchait une deuxième vocation, est arrivée, que les choses ont un petit peu repris la bonne direction avec des frappes, à l'été 95, de façon à remettre tout le monde dans le bon chemin. Alors pour quelles raisons les missions des Nations Unies ne fonctionnent pas, ou moyennement? La première, c'est parce qu'il y a une forme d'angélisme à l'ONU. Quand vous prenez des diplomates, vous les mettez dans la même salle et puis vous leur demandez de penser à l'avenir de la guerre, ils imaginent des choses de diplomates. Alors il y a de l'angélisme et puis aussi il y a toutes les raisons suivantes qui ont été listées dans un rapport de Lakhdar Brahimi en l'an 2000. D'abord parce que la chaîne de commandement est incomplète, parfois absente, dans beaucoup de cas déficiente. Une petite anecdote encore. Quand le pont, en 1995, le poste du pont de Verbania a été pris par surprise par les Serbes, le président Jacques Chirac a décidé qu'on allait reprendre le poste. Mais il n'a pas demandé au secrétaire général des Nations Unies s'il voulait bien donner les ordres à nos propres soldats français. Il a pris son téléphone et il a donné l'ordre. Et puis les hommes sont montés à l'assaut et ils ont repris le poste. On a eu 2 morts. Deuxième point, c'est parce que les Nations Unies, on n'utilise que la légitime défense. Donc il y a des limitations. Limitations sur les calibres, limitations sur les munitions, limitations sur les moyens. Parce qu'une force qui est là juste pour constater ou pour aider à la paix, elle ne vient pas avec tous ses moyens de défense solaire, d'artillerie, d'appui, de soutien, etc. Elle vient pour aider des gens qui ont accepté que les Nations Unies viennent. Et quand les choses se passent mal, eh bien, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Troisième point, c'est parce qu'il y a un grand écart entre les différents contingents. Tous les pays peuvent fournir des contingents aux Nations Unies. Donc on a des spécialistes du béret bleu. Des contingents entiers ont été relevés pour des écarts de comportement. Des viols, de la traite de femmes, de la traite d'armes, enfin du commerce d'armes, etc. Ensuite, dernier point, parce que les processus mis en œuvre sont souvent identiques dans tous les endroits où les forces de casque bleu sont déployées, avec pas trop de discernement. Alors c'est toujours la même chose, hein, le DDR, le processus qui est sur la diapo, renforcer l'État, les institutions, et ça va même jusqu'à gérer les risques environnementaux. Est-ce qu'il y a besoin d'être soldat pour aller gérer les risques environnementaux dans un pays en guerre ? Quand je vous dis que c'est, angélique comme vision, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc les forces de casque bleu ne sont pas des forces de combat. Le combat demande une organisation militaire beaucoup plus complète et l'éventail complet de nos capacités. On ne peut pas se battre avec que deux doigts. Il faut avoir la totalité du corps. Donc l'ONU reste bien le machin décrit par le général de Gaulle et la paix ne s'impose pas aux belligérants qui ne la désirent pas vraiment. Petite remarque suivante, c'est sur est-ce que la France doit agir pour ses principes ou pour ses intérêts ? Alors la France mène toujours des opérations en nombre conséquent. Depuis la guerre d'Algérie, nous avons été impliqués dans à peu près 180 opérations. Les chiffres varient en fonction de ce qu'on y a fait. Ça peut monter jusqu'à 50 et descendre jusqu'à 100, 110. Bon, j'ai pris le milieu. 180 opérations. La plupart du temps sous un mandat des Nations Unies, de l'Union Européenne, de l'OTAN, éventuellement en interallié ou souvent aussi seul. Mais quand on regarde le verbatim qui justifie ces opérations, on remarque que nos principes sont toujours mis en avant, en particulier ceux de notre devise, liberté, égalité, fraternité et droits de l'homme. Bon, on ne parle jamais de nos intérêts. On ne dit jamais on va vous envoyer là-bas parce qu'en fait, on a besoin de contrôler ce pays pour telle et telle raison. On ne justifie pas nos actions avec nos intérêts et même nos déploiements, même dans des opérations dures. A contrario, quand on lit notre théorie de la dissuasion nucléaire, nous serions prêts à tirer nos armes nucléaires sur tout ennemi qui menacerait nos intérêts vitaux. Alors, ça, je ne comprends pas trop, là. Je vois une petite contradiction, même. Petite contradiction qui me semble assez étrange. Donc, est-ce qu'on, pour des opérations, on n'utilise que nos principes vis-à-vis du public français, et puis qu'en fait, on garde nos intérêts vraiment pour des choses très dures, puisque détruire des villes, c'est quand même assez dur. Dans tous les cas, ça ne me semble quand même pas un gros mot de dire que la France et les Français ont des intérêts. On a besoin d'avoir des garanties, parce qu'on a besoin de pétrole, on a besoin de faire tourner nos véhicules, nos industries, on a besoin d'uranium pour produire notre électricité. Donc ça me semble assez trivial de dire que la France a des intérêts. J'ai fait une année de scolarité aux États-Unis en 2011-2012, et je peux vous dire que dans la National Defense Strategy américaine, on a vraiment cette notion de principe qui existe et qui est utilisée comme une référence. Mais pour nos alliés américains, ils affirment haut et fort qu'ils agissent pour leurs principes, mais aussi pour leurs intérêts. Et ils ajoutent, il n'y a pas de problème quand les principes et les intérêts sont alignés. La difficulté, c'est quand ils sont divergents. Eh bien là, il faut donner la priorité aux intérêts. Victoire tactique ou défaite stratégique ? Alors en Europe, la conception de Clausewitz, qui est derrière moi, hein, de l'articulation entre l'action politique et l'action militaire est assez connue dans son livre « De la guerre ». Je ne vous donne pas le titre en allemand parce que je n'ai pas fait d'allemand. Il affirme « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Donc vous voyez la différence de ce que je disais tout à l'heure à propos des Grecs. On voit que dans cette conception, quand la situation devient bloquée, que plus aucune relation bilatérale ne fonctionne, que les nations s'enflamment et montent l'une contre l'autre dans une course et une surenchère, eh bien à ce moment-là, il faut arrêter la diplomatie et passer à quelque chose d'autre. Et je pense que pour les observateurs que nous sommes en ce moment, entre l'Iran et les États-Unis, c'est exactement ce qu'on voit. Les actes de terrorisme des proxys de l'Iran, les provocations du président Trump, l'absence de contrôle sur le corps des gardiens de la Révolution ne font que rajouter de l'huile sur le feu. Et le monde entier en pâtit avec une envolée des prix des carburants, des matières premières qui explosent aussi. Et puis un spectre, celui du blocage du commerce mondial, qui provoquerait l'effondrement de beaucoup d'économies. La mondialisation heureuse qui nous avait été promise a quelque peu déchanté ces derniers mois. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vous renvoie à ce que je disais sur les intérêts et les principes. Dans les conflits récents, nos dirigeants politiques n'ont pas réellement identifié de but de guerre à atteindre pour ramener la paix. Parce que désormais, on fait la guerre un petit peu comme on envoie du soutien logistique pour un tremblement de terre. On dit, tiens, on va envoyer 500 hommes, ou 700, ou 1500. En fait, la réflexion stratégique de se demander quels sont nos objectifs, quels sont les buts que je veux accomplir en faisant la guerre, ça a complètement disparu de la réflexion. Le triptyque action politique, action diplomatique et action militaire ne fonctionne plus normalement. Autrefois, faire la guerre permettait de débloquer une situation que la diplomatie ne pouvait plus résoudre. Et ensuite, la guerre générant évidemment d'autres dynamiques, on revenait à des discussions. Donc en fait, dans la conception occidentale, celle de Clausewitz, la guerre, c'est une parenthèse en théorie. Désormais, la réflexion s'est appauvrie. On engage la vie de nos hommes pour faire quelque chose, pour montrer que l'on réagit. Mais derrière, l'intention reste floue. Le but de guerre n'est pas clairement identifié. Et dans ces conditions, si on peut obtenir des victoires tactiques localement, mais la victoire stratégique va tout le temps nous échapper. Pour en faire une formule lapidaire, pas de stratégie implique pas de victoire sur l'ennemi. En Indochine, je pense que notre stratégie était très peu claire. En Algérie, je pense que notre stratégie était très peu claire. Eh bien, ça n'a pas changé depuis. Alors, dès lors, la paix devient plus fragile et plus illusoire, parce que nos dirigeants manquent de culture stratégique pour comprendre la complexité des choses, l'engrenage des décisions, la tyrannie des incidents et les difficultés. Le temps stratégique n'est pas le temps politique, qui est celui de la prochaine élection. Alors, je ne veux fâcher personne, hein, vous avez compris. Donc je vais prendre un dirigeant étranger et vous montrer que Donald n'est pas seulement un personnage de dessin animé. Donald Trump, aujourd'hui, il a une échéance principale. C'est novembre, c'est ce qu'ils appellent les midterms. Et évidemment, il n'a aucune envie de se compliquer la tâche et de se rendre la vie difficile si les démocrates reprennent le contrôle du Congrès. Alors, comme tout bon politicien, ils sont obnubilés par le sondage, par l'écho médiatique, par les réactions diverses. Ils sont accros aux news, à Twitter, à Telegram, à tout ce qui peut faire du bruit. Un homme politique, c'est quand même une autre envergure. Il pense d'abord au bien commun, avant de penser à lui, ou à son propre avenir. Est-ce que quelqu'un imaginerait le général de Gaulle décider pour satisfaire les mécontents ? Je crois pas. Alors non, le temps stratégique n'est pas le temps politique. Et pour moi, cette notion de temps est assez essentielle. Le temps politique est court. Le temps militaire, il est beaucoup plus long. On ne résout rien en quelques minutes, en quelques heures ou en quelques jours. Sauf si ce qui compte, c'est la gesticulation, beaucoup plus que l'action dans la durée ou le résultat. Sauf quand la mise en spectacle est plus importante que la mise en perspective. Est-ce qu'on veut montrer Bernard Kouchner débarquant des sacs de riz d'un avion, ou est-ce qu'on veut montrer qu'on aide vraiment les gens? C'est toute la question. On ne peut que constater que la patience stratégique a disparu au XXIe siècle. Nos dirigeants veulent tout, tout de suite, et ce n'est simplement pas possible. Pour gagner, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut de la volonté, et est-ce que j'oserais le dire, il faut de la constance politique. On choisit et on s'y tient. Alors, en revenant sur les derniers engagements en Irak, en Afghanistan, en Libye, on peut se rendre compte que nos démocraties sont à la peine. Elles sont à la peine parce qu'elles veulent promouvoir un mode de fonctionnement et de vie pour lequel il nous a fallu des siècles d'ajustements plus ou moins violents pour y parvenir. Notre fonctionnement s'appuie sur l'individualisme. Et dans la plupart des pays concernés, on a encore un fonctionnement tribal, ethnique, mais surtout collectif. Pour mémoire, nous avons connu en France 5 constitutions pour faire fonctionner notre démocratie en 250 ans. Donc la terreur révolutionnaire qui a engendré directement la mort de 40 000 Français, et bien plus si l'on compte au-delà des exécutions et des morts en prison. Et tout ça, on aimerait que les Afghans soient capables de l'assimiler en 20 ans. Ou les Maliens. Alors nos démocraties, elles sont à la peine parce qu'elles doivent aussi gagner tous les engagements face à des insurgés pour qui exister, simplement exister, c'est déjà la victoire. Et nous, en revanche, il faut qu'on gagne à chaque fois. Alors, dans le même temps, nous, on respecte des lois, des accords internationaux qui nous lient, qui nous limitent, face à des gens qui n'en ont pas et qui considèrent qu'ils n'ont rien à perdre, et qui se battent sans rien risquer, à part le paradis et les 70 vierges. Alors, nous, dans le même temps, évidemment, on a signé beaucoup d'accords et on s'est auto-interdit des mines, les sous-munitions. On applique des lois de protection des libertés dans des pays qui n'en ont pas. On vient même à imaginer des véhicules militaires moins polluants, électriques, pour préserver la planète. Moi, bon, je vous ai déjà parlé de l'ONU qui gère en opération le risque environnemental. Donc voilà. Donc il faut savoir raison garder pour gagner une guerre moderne. Tout cela doit passer au second plan. Je pense que si on regarde l'Ukraine, leur souci n'est pas là. Ils ont bien compris qu'ils sont dans un combat existentiel. Ils ont compris que s'ils perdaient, les Russes allaient les remettre en coupe réglée. Donc ils n'ont pas du tout envie de perdre. Alors, il faut savoir raison garder, je vous disais, parce que dans une guerre moderne, tout ça doit passer au second plan, surtout quand nos compétiteurs, ou même certains de nos grands alliés, ne l'ont pas accepté. La Chine, la Russie, les États-Unis n'ont pas ratifié les accords d'Ottawa. Et utiliser des mines, c'est la chose qui est juste indispensable si on veut se défendre. Alors si on n'en a pas, ça va être compliqué. Les démocraties sont désormais dans l'incapacité de vaincre parce qu'elles ne combattent pas à armes égales, devrais-je dire à armes légales, contre des ennemis ou des adversaires potentiels. Alors un exemple très trivial. Hein. Avant on parlait d'ennemis, maintenant on parle plus volontiers d'adversaires. C'est moins méchant, ça stigmatise moins. Et comme c'est ça le truc qui est à la mode, donc même le vocabulaire s'affadit. Alors les démocraties sont en incapacité de vaincre parce qu'on est aussi obnubilé par la mort du soldat français. Et je vous cite une petite anecdote. En Afghanistan, le président Sarkozy, lors des opérations en Afghanistan, est devenu furieux parce qu'il y avait eu des morts juste le jour du 14 juillet, alors qu'il allait s'adresser à la nation. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit aussi désormais observer des jours chômés pour ne pas risquer de perte un jour de discours ? Parce que c'est compliqué, hein, quand on est loin, dans un pays éloigné, avec plusieurs milliers de kilomètres, savoir ce que pense Paris quand nous, on est sur le terrain en train de conduire des opérations, c'est compliqué. Pourtant, gagner la guerre offre des garanties d'années de paix. Encore faut-il choisir un camp et se lancer à corps perdu dans cette guerre. Si on regarde l'exemple des Américains, des Anglais, en 1942-43, bon, on voit bien que seul leur investissement complet a permis de faire basculer et de renverser l'Allemagne nazie. Faire la guerre n'est pas une fin en soi, je suis bien d'accord avec vous, sauf quand on est marchand de canons et marchand d'armes, mais ce n'est pas notre cas. Alors en conclusion, nous, on n'a que des poètes. Pour le chrétien que je suis, mon métier n'a jamais été un problème. J'ai tué, j'ai fait tuer, pour mon pays, en son nom et en votre nom. J'ai jamais tendu l'autre joue parce que j'ai toujours du mal avec ce concept, surtout lorsque l'ennemi touche à mes hommes et nous veut du mal. Mais j'ai agi sans haine, avec toute la froideur du professionnel que je suis, et je pense que c'était ça le plus important. Au final, comme m'a dit mon fils récemment sur un sujet complètement différent, tu verras ça directement avec Saint-Pierre, papa. Alors priez pour moi et je vous remercie d'avance. Je terminerai sur une dernière anecdote. Quand j'étais à Sarajevo, capitaine, en 1995, j'avais un jeune officier sous mes ordres qui était un appelé et qui commandait une section de combat. À la suite de son service militaire, il a rejoint le séminaire, il est devenu prêtre. Il a servi ensuite de nombreuses années dans l'aumônerie militaire et désormais il est chargé d'âmes près de Pau, dans une église de village, depuis 4 ou 5 ans. Il a été interviewé, je crois, par la Dépêche du Midi, et c'est ce que je vous ai recopié là sur la diapo. Je vous laisse lire ses déclarations. Alors, Benoît Galvan a écrit « Tu honoreras père et mère ». Défendre ses proches, sa patrie, c'est aussi un commandement, rappelle-t-il. Ce qui serait inacceptable, c'est de tuer l'innocent. Puis après quelques secondes de réflexion, l'aumônier rajoute « J'ai vécu la mort en direct d'un taliban qui nous tirait dessus à partir d'une maison. Nous avons envoyé un missile. Pendant les 20 secondes de course du projectile, j'ai réalisé qu'il allait mourir. Qui était-il ? Un père ? Un fils ? Tuer est un geste qui ne peut se concevoir que par amour de son pays et des siens, un geste dépourvu de haine. Ce n'est pas qu'une notion chrétienne. Le code d'honneur du soldat français commande d'agir avec humanité et respect de son ennemi. Et il rajoute à la fin, « Le fait de côtoyer la mort donne plus de relief et d'intensité à la vie. C'est difficile à dire, mais c'est exaltant. Vivre, c'est aussi apprendre à mourir. Et cette vie-là me l'a enseigné. » Bon, il exagère, hein, le père Galvan. Parce que le missile, il ne met pas 20 secondes, il met 12 secondes pour arriver. Donc, vous voyez, c'est vraiment exagéré. Bon. Et puis, comme j'ai commencé par de la poésie avec Baudelaire, je vais finir avec de la poésie aussi. Parce qu'on n'est pas que des brutes, hein. Donc, je vous livre cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, grand soldat, grand pilote surtout, et qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le soldat n'est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d'aller sans faillir au bout de sa parole, tout en sachant qu'il est voué à l'oubli. Voilà. J'ai terminé ce que je voulais vous dire cet après-midi.